Vous écoutez France Culture.
Et à 1h05, la grande table continue, Caroline Brouet.
Oui, je cherchais une transition, mais je n'en ai pas trouvé. Alors nous allons passer directement à l'économie, bien que nous ne parlions pas d'économie seulement, mais aussi de politique et de philosophie politique avec notre invité du jour, Cédric Durand. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes économiste vous-même, vous êtes directeur d'études à l'EHESS.
Pas encore directeur d'études, disons.
Ça va venir. Maître de conférence à l'université Paris 13, signataire du manifeste Les économistes atterrés, et l'auteur d'un certain nombre de livres sur l'Europe, sur le capitalisme. Et vous êtes co-organisateur, ça vous l'êtes aujourd'hui, co-organisateur d'un colloque international qui va se dérouler de demain à samedi à l'Université Paris-Ouest Nanterre et dont le titre est « Penser l'émancipation ». C'est en fait la deuxième édition de ce colloque international. La première a eu lieu il y a 2 ans, c'était à Lausanne, me semble-t-il.
Exact.
Vous avez là 200 intervenants qui vont donc parler d'émancipation et c'est un grand colloque organisé par le réseau Penser l'émancipation, dont vous faites partie du comité scientifique de ce réseau, et par le laboratoire Sophia Paul. Qu'est-ce que c'est ce réseau Penser l'émancipation ?
Bien, c'est un réseau qui s'est constitué dans le monde francophone, essentiellement autour d'universitaires, mais également de militants, avec la volonté de mettre cette question de l'émancipation au cœur des recherches et d'informer les pratiques militantes, d'engager un dialogue.
Bon, et donc ce colloque a lieu sur 3 jours. C'est aussi un colloque qui a une dimension internationale. En quoi le concept d'émancipation est-il un concept pertinent, selon vous, pour penser notre monde aujourd'hui, Cédric Durand ?
Eh bien, le concept d'émancipation vise à dépasser celui de la critique cantonnée à la critique de la domination. C'est l'idée de contribuer à mettre en place des cartographies des types de domination qui existent, mais également des contradictions que génèrent ces dominations, et donc de la possibilité d'en sortir, puisque ces dominations laissent la place à des subjectivités pour s'incarner, pour résister, pour trouver une nouvelle place. Et ces contradictions et la place que ces subjectivités agissantes peuvent prendre au sein d'elles laissent entrevoir la possibilité d'autres formes de rapports sociaux.
Parce que jusqu'à présent, dans le champ des recherches sociales, en sciences sociales, le concept de critique était réduit à un concept de domination ?
Non, peut-être pas, mais peut-être que on a choisi de souligner cet aspect plus que d'en rester peut-être à l'ère du temps précédent qui était beaucoup celui des résistances. Hein. Je pense que...
C'était quand, pardon ?
Alors, justement, j'allais faire le lien avec les années 90, hein, le mouvement 95, les mouvements des chômeurs, mais également l'appel de Pierre Bourdieu pour un mouvement social européen. C'est vraiment un moment historique qui s'inscrit dans un moment de résistance. On voit émerger dans les années 2000, avec le mouvement altermondialiste, le mouvement pour la justice climatique, d'autres thématiques de lutte, mais également une certaine prise de conscience des limites de ces résistances. Et de ce point de vue-là, le concept d'émancipation qu'on essaye de travailler dans ce colloque vise à essayer de dépasser ces limites, à essayer de redonner sa place à la théorie comme un des instruments pour développer l'émancipation elle-même, mais également à redonner sa place aux expériences militantes dans la formulation de la théorie.
Est-ce qu'on peut le définir, ce concept ?
Moi, je le définirais donc autour de 3 éléments. Cartographier les dominations, pointer les contradictions qui existent et laisser la place aux subjectivités agissantes pour inventer autre chose.
Est-ce qu'on peut développer chaque terme de la définition ?
Oui, alors, les dominations. Alors, ça me permet d'avancer de glisser un tout petit peu vers l'idée d'intersectionnalité.
Oups.
Alors, c'est un mot légèrement complexe, mais c'est une idée toute simple que chacun ne se résume pas à un rapport social. Chacun participe et est traversé lui-même par une multiplicité des rapports sociaux. On peut être salarié, on peut être femme, on peut être racisé, on peut être habité dans une banlieue polluée, on peut, bon, etc. Et cette multiplicité de rapports sociaux qui nous traversent et auxquels on participe, ben, travaille nos identités et nous donne des possibilités d'agir dans le monde social qui sont différentes. Donc, de ce point de vue-là, penser l'émancipation, c'est penser pour chacun sa cartographie dans laquelle il s'insère, mais également pour le système, la cartographie des rapports de domination qui eux-mêmes laissent la place à des tensions, des contradictions et la possibilité d'inventer quelque chose de nouveau. Alors, si on veut rentrer davantage dans le détail, il faut aller dans les développements concrets de chacun de ces rapports. Hein. On peut penser évidemment au rapport salarial, à sa crise aujourd'hui, à la grande crise que connaît le capitalisme. On peut penser aux rapports sociaux de race. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rendre hommage à Stuart Hall qui est décédé il y a une semaine et qui a permis de penser justement le racisme non pas quelque chose de transhistorique, d'absolu, mais quelque chose qui doit être pensé au sein des rapports de production d'une époque donnée. On peut penser aux rapports sociaux de sexe, hein, les rapports sociaux de sexe qui sont à la fois qui existent au-delà des rapports sociaux de production, mais qui participent à l'organisation du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, qui en sont constitutifs. Hein, par exemple, dans les communications qu'il y aura dans le colloque, il y en a une qui traite du travail des travailleuses domestiques philippines au Canada. On voit là, typiquement, sur cette question, se posent des questions de race, des questions de rapports sociaux de sexe et également une forme d'organisation du travail dans les grandes métropoles urbaines.
Sans doute qu'Éric Fassin, ici présent, essaiera d'expliquer en quoi peut-être ce concept d'émancipation, en tous les cas en ce qui concerne aussi bien la question du genre, de la race, du sexe, n'est pas un concept si nouveau, mais je lui laisserai la parole tout à l'heure. Une question de Frédéric Mettezo.
Oui, vous dites, vous venez de nous le dire, et à ce micro sur France Culture, vous l'avez écrit, il faut d'abord analyser et comprendre le système dominant pour préparer la lutte. Et vous l'avez écrit, hein, je cite un article que vous aviez publié sur Mediapart. Il faut d'abord procéder à la dissection de l'adversaire pour préparer l'imagination de l'émancipation, la mise à nu des rouages pour donner la prise aux luttes. Bref, il faut comprendre le système dominant, il faut l'analyser, il faut le disséquer comme un médecin finalement ou comme pendant une autopsie. Cette analyse, pardon, du système, est-ce que c'est ça qui fait la différence entre la résistance et l'émancipation ? C'est-à-dire l'émancipation est permise par la dissection profonde et la compréhension profonde du système.
Cédric Durand.
Il y a dans l'histoire des pensées critiques, dans l'histoire notamment du marxisme, hein, qui occupe une place centrale dans cette histoire-là, une coupure, à mon sens, qui a lieu autour du mouvement althusserien des années 60. Auparavant, c'est l'époque des intellectuels armés. Hein. C'est l'époque où les dirigeants politiques sont des intellectuels et les intellectuels sont au service d'un combat politique immédiat. À un moment donné, la crise de l'Union soviétique, de l'expérience soviétique, du marxisme congelé du milieu stalinien du milieu du siècle, c'est aussi cette crise-là. Et c'est l'autonomie de la pratique théorique qui s'affirme comme une nécessité pour pouvoir penser véritablement l'émancipation et pas rester bloqué dans une instrumentalité de la science. Donc, de ce point de vue-là, la théorie est importante et a sa propre logique, ses propres développements qui ne sont pas circonscrits aux enjeux de lutte, aux enjeux de combat immédiat. Pour aller un petit peu plus loin, c'est même une précondition, cette autonomie du champ théorique, pour pouvoir laisser mûrir et avancer l'ambition, les projets émancipateurs et les actions émancipatrices.
Vous parlez, Cédric Durand, d'autonomie du champ théorique et de marxisme ou de référence marxisme. Est-ce que les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous réfléchissez au sein notamment du réseau Penser l'émancipation, se revendiquent aussi dans un point de vue générationnel comme des chercheurs, des penseurs, des théoriciens qui se seraient eux-mêmes émancipés de leur père, c'est-à-dire des références marxistes? Vous aviez l'air de situer au début des années 2000 une espèce de basculement des références. Je parle de ça parce que je pense notamment à Jacques Rancière qui a pensé l'émancipation et qui n'apparaît pas dans le colloque. Comment vous situez-vous par rapport à ça?
Non, je ne pense pas qu'il y ait une émancipation du marxisme. Je ne pense pas. Les pensées critiques ne se résument pas aujourd'hui au marxisme. Et bien sûr, dans le colloque, il y a une diversité d'approches qui ne se résument pas aux approches marxistes, mais celles-ci sont également présentes de manière importante. D'une certaine façon, ce n'est pas très surprenant. La grande crise que l'on connaît aujourd'hui réimpose avec une force extrême de penser le capitalisme. Et le théoricien du capitalisme reste fondamentalement Marx. C'est à partir de cet auteur qu'on peut penser ça. Ensuite, dans le colloque, les pratiques théoriques et les pratiques de recherche sont extrêmement diverses. Il y a des champs qui... Je peux vous en citer quelques-uns, mais j'ai cité le féminisme matérialiste, j'ai cité des études des cultural studies avec Stuart Hall. On peut penser, dans le champ de l'économie critique, à un travail plus, plus immédiat, plus empirique sur la question des frais d'inscription. Hein. Et les politiques, quelles sont quelle est l'économie des frais d'inscription, quels sont les arguments en faveur de la mise en place des frais d'inscription et quels sont les effets que font les frais d'inscription à l'éducation et au système productif plus généralement. Donc là, c'est quelque chose qui est peut-être plus déployé. On peut penser aussi à la justice environnementale. Hein. Une série de travaux vont se poser la question des liens entre financiarisation et nature, mais également entre nature et géographie. De quelle façon les inégalités environnementales se déploient dans l'espace. Donc vous voyez, le champ est quand même extrêmement large, extrêmement ouvert. Et un point sur lequel vous insistiez à raison, c'est la dimension générationnelle. D'un certain point de vue, on est libéré aussi, on peut prendre le meilleur des années 70, qui pour beaucoup d'entre nous reste un moment théorique extrêmement important. On peut prendre le meilleur des moments des années 70, mais en étant d'une certaine façon allégé hein, du contexte extrêmement lourd et des responsabilités immédiates extrêmement fortes qui existaient à cette époque-là. Dans les années 70, la perspective d'un post-capitalisme socialiste était quelque chose de pris très au sérieux par tout le monde. Hein, la gauche était extrêmement forte, y compris les conservateurs s'interrogeaient sur la fin du capitalisme. Donc les débats avaient une densité extrêmement importante, et ce qui donne aussi d'ailleurs la qualité et politique et théorique à une série de travaux. Quand on pense par exemple aux travaux de Nikos Poulantzas sur l'État comme un champ stratégique, c'est quelque chose qui se pose avec la question immédiate hein, de l'arrivée de la gauche au pouvoir et de ce qui pourrait ou ne pourrait pas être fait. Donc là, on a un contexte qui est extrêmement dense, extrêmement dur, mais qui est aussi sans doute un peu impressionnant. Et le retrait, d'une certaine façon peut-être, des pensées critiques dans les deux décennies qui ont suivi, n'est pas seulement dû, bien sûr, et de manière massive, hein, dû à l'avancée du thatchérisme, des politiques néolibérales et de la dégradation des conditions sur le marché du travail, mais c'est également dû peut-être à la nécessité d'une respiration par rapport à ces pensées. Hein. Et cette nouvelle génération, donc, si on prend les organisateurs du colloque, c'est des gens extrêmement jeunes. Hein, c'est la plupart sont doctorants, une trentaine d'années. Donc il y a vraiment de ce point de vue-là une fraîcheur dans ce travail. Et on découvre, hein, beaucoup d'entre nous découvrent avec une certaine excitation le foisonnement de cette époque et tentons de le redéployer dans un moment où, de nouveau, mais de manière très différente, le capitalisme est en difficulté.
Alors, je vous citais Éric Fassin, il nous a rejoint autour de la table, chercheur, penseur de l'émancipation, s'il en est, Éric Fassin, complice de la grande table, Cédric Durand, pour vous interroger à nos côtés, Frédéric Métezeau et moi-même. Bonjour à vous,
bonjour.
Éric Fassin, je vous cède la parole.
Merci. J'avais une question pour commencer qui porte sur l'émancipation et je prendrai une comparaison avec le terme de subversion. Il y a quelques années, a paru en français la traduction du livre de Judith Butler, Trouble dans le genre, et le sous-titre, un peu par inattention, était devenu le féminisme et pour un féminisme de la subversion. Et en fait, c'était une erreur de traduction qui a été corrigée dès la deuxième édition, puisque c'est devenu le féminisme et la subversion de l'identité. L'enjeu, c'est de savoir, est-ce que subversion était un terme qui avait une valeur absolue, ou bien est-ce qu'il fallait le préciser ? C'est-à-dire, on subvertit quoi ? Et il me semble que la question pourrait se poser dans les mêmes termes pour l'émancipation. On émancipe qui ? Parce que j'imagine, par exemple, qu'on pourrait se dire tout le monde. Voilà. Nous avons tous besoin d'être émancipés, mais j'ai l'impression que, par exemple, le premier objectif n'est pas d'émanciper les patrons du CAC 40. Donc, en fait, ça veut bien dire qu'on va se poser la question de qui sont les gens qu'on veut émanciper. Et est-ce que ça veut dire que le dénominateur commun, c'est la domination, c'est-à-dire on veut émanciper les dominés. Et dans ce cas-là, est-ce que ça ne pose pas une difficulté, c'est-à-dire est-ce qu'on ne part pas de la catégorie même de la domination pour essayer de penser l'émancipation. Je n'ai pas de réponse, mais je vous soumets la question en espérant que vous en aurez à ma place.
Cédric Durand.
Oui, la question de qui et de quoi on émancipe est éminemment complexe. Et la démarche du colloque, c'est d'assumer cette complexité, de ne pas chercher à réduire les personnes émancipées ou le rapport social émancipé. C'est à la fois reconnaître qu'il y a une multiplicité de vecteurs d'émancipation et à la fois reconnaître que cette multiplicité de vecteurs d'émancipation font système. Hein. La multiplicité de vecteurs de domination plutôt font système, ne se résume pas à des micro-structures de domination. Il y a bien aussi cette idée macro de système. De ce point de vue-là, on peut voir le caractère complètement... Vous parliez d'émanciper les patrons du CAC 40, mais à l'inverse, on peut voir les obstacles à l'auto-émancipation des travailleurs. Dans un exemple récent, dans l'usine Volkswagen de Chattanooga aux États-Unis, dans le Tennessee aux États-Unis, les travailleurs viennent de refuser d'être affiliés au syndicat avec suite à une campagne très importante des milieux conservateurs, au dehors de l'usine, avec des affiches, etc. Bon, là, c'est quoi ? C'est la néolibéralisation des âmes qui est à l'œuvre. Hein. C'est quelque chose qui traverse les individus vraiment au fond d'eux. Donc,
Il faut juste préciser, un instant, pardonnez-moi de vous interrompre, que c'est aussi un syndicat unique, contrairement en France où on a... plusieurs étiquettes à disposition. Là, la particularité, c'est qu'il y avait un syndicat unique qui était d'ailleurs le même que General Motors et les ouvriers se sont aussi rebellés contre ce monopole du syndicat, par ailleurs.
Oui, sans doute, mais le fond de l'affaire...
Et aiguillonné, comme vous l'avez dit, ouais, par les milieux conservateurs.
Le fond de l'affaire, c'était l'argument des milieux conservateurs que adhérer au syndicat limiterait la capacité de la firme à recevoir des investissements dans l'avenir et donc les emplois. Mais ce point me semble extrêmement intéressant parce que dans ce cas-là, de quoi où se pose le problème de l'émancipation ? Ce n'est pas qu'une question de rapport salarial, de rapport au travail, d'exploitation. C'est aussi une question de domination culturelle, de domination idéologique et de la possibilité ou non de travailler ces dominations idéologiques. Donc d'une certaine façon, la réponse que j'apporterai à votre question, c'est que cette question de l'émancipation, on choisit de la poser de manière complexe. On assume cette complexité, mais sans la réduire à des microstructures de pouvoir.
Éric.
Je crois qu'effectivement, enfin, c'est un des éléments très intéressants. Enfin, l'intersectionnalité, vous l'avez dit, c'est une volonté d'essayer de penser le fait qu'il n'y a pas un seul fil à tirer, mais il y en a toute une série. Mais une fois qu'on a tiré tous ces fils, c'est-à-dire la domination de classe, la domination de race, la domination de sexe, la domination par la sexualité, etc., et d'autres encore, une fois qu'on a tiré tous ces fils, la question c'est comment on va les recomposer. Parce que, en fait... tout le monde n'a pas les mêmes adversaires et la question se pose constamment. Vous avez rappelé l'importance de la référence marxiste, qui n'est pas la seule, bien sûr, mais qui est une des références importantes dans ce colloque. Un problème classique pour le marxisme, c'est de savoir est-ce qu'il y a une question déterminante en dernière instance, à savoir la question économique. Est-ce que, en pratique, politiquement, est-ce qu'on a un ennemi principal ? Est-ce que donc les autres questions viennent distraire ? Alors on peut se dire non, en fait, tout ça marche d'un même pas, mais on voit bien que, par exemple, pour prendre l'actualité relativement récente en France, certains s'inquiétaient du fait que si on parlait du mariage pour tous, on n'était pas en train de parler d'autre chose, par exemple de l'économie. Alors, il y a toutes sortes de réponses, mais la question de savoir comment on articule les choses, c'est précisément l'enjeu, parce que on n'est pas sûr que tous les gens qui veulent être émancipés ont les mêmes adversaires et que ce soit une seule logique qui se déploie sous des formes différentes dans le registre de la classe, dans le registre du genre, dans le registre de la race, etc. etc.
Cédric Durand.
Oui, c'est effectivement une difficulté de passer des pratiques émancipatrices ou de résistance locale à un projet émancipateur avec une dimension macro-collective. C'est au fond la question de la stratégie politique. Et là encore, il n'y a pas de manière directe d'y répondre, de manière simple d'y répondre, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est peut-être sur cette idée d'autonomie relative des différentes luttes, des différents projets émancipateurs. Si à la fois il doit y avoir des moments de coalition qui permettent d'avancer sur un agenda, d'avancer sur une plateforme et donc de faire émerger des projets qui unifient les différents axes, pour autant jamais chacune des questions considérées ne se réduit au tout. Elle conserve une autonomie relative. Elle n'en est pas séparée. Elle ne peut pas faire autrement que s'y articuler. Mais chacune des questions ne peut non plus, à un moment donné, disparaître, se dissoudre pour être intégrée dans un projet unificateur. C'est dans cette tension, cette autonomie relative entre les différents axes de domination et d'émancipation possibles que je verrai la possibilité de travailler, d'avancer vers cette question stratégique.
Si vous le permettez, encore une question pour revenir au terme de résistance. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'un des problèmes d'une gauche critique depuis un certain temps, c'est d'avoir été dans cette position de résistance, qui donne l'impression que forcément le mouvement est ailleurs, que le mouvement, c'est les réformes, c'est le progrès qui serait porté par d'autres, et donc c'est les accusations répétées contre une gauche critique qui serait finalement conservatrice. Donc parler d'émancipation, vous l'avez dit, c'est une manière de sortir de cette impasse, c'est-à-dire de ne pas se laisser assigner cette place qui reviendrait à être simplement à protéger des avantages acquis, comme on le dit par exemple dans le registre économique. Donc je trouve qu'effectivement c'est très important. Le problème, c'est à partir de quoi on va penser pour sortir, c'est bien l'enjeu de ce colloque, pour sortir de ce modèle de la résistance. Et il me semble qu'une des manières dont les questions ont été posées, précisément, disons, à l'âge néolibéral et avec Foucault en particulier, c'est celle de la subjectivation. C'est-à-dire l'idée que nous sommes constitués en tant que sujets dans ces rapports de pouvoir. Donc, ça n'est pas tout à fait la même chose que l'émancipation, puisque précisément, par exemple, ce que Didier Ribon dit à propos de la subjectivité gay, c'est qu'elle se constitue à travers l'insulte. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de s'émanciper de l'insulte, mais de s'émanciper dans un cadre qui est celui de l'insulte. Et c'est généralisable. C'est-à-dire que la question de la subjectivation, c'est la manière dont je vais me construire, non pas en dehors de ces rapports de pouvoir, mais dans ces rapports de pouvoir. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une émancipation, si elle doit être pensée à l'intérieur même des rapports de pouvoir, y compris des rapports de pouvoir dans le capitalisme?
Une recherche à nouveau de stratégie politique, Cédric Durand.
Oui, effectivement, c'est très important, cette idée que les subjectivités se constituent dans les rapports de pouvoir, dans les rapports de domination tels qu'ils existent. Peut-être pour répondre de manière un petit peu décalée à votre question, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être un élément transversal dans la conjoncture pour faire avancer des exigences émancipatrices? Mais il me semble qu'il y a une question qui est une question qui traverse, qui est la question centrale politique dans le pays aujourd'hui. C'est la question du chômage de masse. Sur cette question du chômage de masse, quelle réponse faut-il apporter? Eh bien, il me semble que penser la pluralité des différentes dimensions de l'émancipation permet de rechercher une réponse qui interroge à la fois la dimension écologique, à la fois la dimension des rapports sociaux de race et des rapports sociaux de classe, et à la fois également les rapports sociaux de sexe. Autour de ça, on peut réfléchir autour d'une proposition qui a été développée par un économiste post-keynésien qui s'appelle Minsky. Et sa proposition, c'était l'idée d'État employeur en dernier ressort. Alors, on pourrait la reformuler en financement de l'État employeur en dernier ressort. Travailler cette question-là, se dire que la question de l'emploi devient quelque chose de central, un droit pour tout le monde, c'est une manière aussi d'interroger la question, les différents rapports, les différentes dominations qu'il y a. Ça n'est pas déconnecté. Hein. Ça ne résout évidemment pas tout. Mais voilà, ça permet, en posant cette question-là... Alors pourquoi... Oui, juste un point précis. Pourquoi cette proposition me semble particulièrement intéressante? Parce qu'elle permet de penser la question du plein emploi sans penser la croissance. Et c'est un argument qui est absolument clé. C'est l'idée, comment on fait pour répondre à la fois à l'urgence sociale, aux besoins sociaux et sortir de l'imaginaire de la croissance dans lequel est engluée, à mon sens, une partie encore de la gauche et qui, d'une certaine façon, renvoie à cette image mythifiée de la gauche des transglorieuses, de la gauche du progrès. Bon, voilà, autour de... Voilà, donc, voilà, si on prend des cas pratiques, hein, c'est aussi de manière pratique qu'on peut essayer de voir de quelle manière ce travail théorique peut déboucher sur des points d'accroche pour l'émancipation.
Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, les cas pratiques nous permettent bien de comprendre, et vous le faites vous-même, Cédric Durand, vous le faites aussi en matière économique, puisque vous êtes économiste. Vous travaillez sur la financiarisation des économies. Alors, du chômage de masse à la financiarisation des économies, quel serait le programme émancipateur de tous et de chacun?
C'est beaucoup de choses. Non, pour articuler les deux, on peut peut-être essayer de partir d'un mystère du capitalisme contemporain. Dans le capitalisme contemporain, bon, les profits sont, dans les années 80, fin des années 80-90, sont vraiment importants. Ils déclinent un petit peu dans la période juste avant la crise, mais les profits sont vraiment importants. Et pourtant, dans le même temps, l'investissement s'arrête. C'est ça le mystère fondamental du capitalisme contemporain. On a à la fois beaucoup de profits et on n'investit pas. Alors que la logique voudrait que si on fait des profits, on réinvestit pour en faire encore plus. C'est ça le fond de la logique du capitalisme. Donc penser la financiarisation, c'est penser ce mystère. Et ce mystère, il n'a pas une réponse. Il a une multiplicité de réponses. Bon, j'en donnerai peut-être trois seulement maintenant. Une, bien sûr, qui est la dégradation du rapport capital-travail et qui fait que le capital a pu pressurer davantage le travail et de cette manière-là gagner de nouvelles marges de profit. Et en même temps, maintenir dans un certain nombre de pays la demande suffisante via l'endettement des ménages. Ça, c'est un des premiers mécanismes. Un deuxième mécanisme qui est aussi extrêmement important, c'est l'idée de la mondialisation. À travers la mondialisation, une partie des profits remontent de structures mondialisées qui sont extrêmement concurrentielles à des structures dans les pays du Nord qui fonctionnent de manière oligopolistique. Donc, qui peuvent permettre de remonter une partie des marges là où il y a de la concurrence vers là où il y a moins de concurrence. Troisième mécanisme, c'est le rôle du capital fictif. Je m'arrêterai peut-être sur cette dimension-là parce qu'elle me semble très importante. Le capital fictif, c'est quoi? C'est le capital financiarisé. Le fait qu'on croit avoir de l'argent, et on en a effectivement lorsqu'on la liquide, lorsqu'on détient des valeurs boursières. Mais ce qui est vrai pour un individu n'est pas vrai pour tout le monde. Toutes les personnes qui détiennent aujourd'hui des valeurs boursières ne peuvent pas liquider ces valeurs boursières et avoir des contreparties réelles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de valorisation financière qu'il n'y a de valorisation disponible, qu'il n'y a de richesse produite dans l'économie. Et ce point est extrêmement important juste sur la période de la crise, parce que l'action des banques centrales et l'action des États, elle a visé à défendre cette valeur du capital fictif. Aux États-Unis, la base monétaire de la réserve fédérale a augmenté de 350%. Une action gigantesque dont l'effet principal a été de faire remonter de manière spectaculaire les cours boursiers et dont les effets en termes de distribution ont été que 95% des gains de croissance depuis le bas de la crise ont été accaparés par les 1% les plus riches.
Cédric Durand, tout à l'heure, je vous demandais dans quelle lignée vous et vos pairs, alors PAIRS cette fois, hein, au sein notamment du réseau Penser l'émancipation, mais aussi par rapport à ce colloque, dans quelle lignée au sein de la grande histoire de la pensée critique ou de la pensée de gauche depuis 40 ou 50 ans, vous vous inscriviez. On peut voir comme participant à ce colloque, qui encore une fois a une dimension internationale, par exemple John Scott sera là. Il y a Étienne Balibar, il y a Frédéric Lordon, on peut voir certains noms de vos pères, cette fois PERES, c'est-à-dire un peu plus âgés que vous, et puis donc un certain nombre de gens qui sont plus jeunes, qui sont comme vous et qui réfléchissaient à cette question d'émancipation. Vous n'avez pas complètement répondu sur la lignée, sur le fait que vous vous émancipiez vous-même d'un certain pan de la pensée critique. Vous commenciez à dire parce qu'elle peut être réduite à ce concept de domination et de résistance. En même temps, on voit bien que ce concept de domination et de résistance résiste lui-même. Hein. Il est encore pertinent, il est encore là. Aujourd'hui, il est encore en vigueur. Et autre question qui est une question corollaire, dans la mesure où vous définissez votre lignage à vous, votre héritage à vous, est-ce que vous vous différencieriez de la gauche radicale? Est sorti à l'automne dernier un livre aux éditions Frankenstein qui s'intitule « Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques ». Alors, entre gauche critique, gauche radicale, pensée de l'émancipation, pensée de l'utopie, juste comment vous situez-vous, Cédric Durand?
Alors, là encore, il y a beaucoup de questions.
Je ne veux pas vous mettre une étiquette, mais
il y a beaucoup de questions en une, et puis je répondrai peut-être plus aussi de mon point de vue d'économiste, c'est-à-dire de mon champ. Mais il me semble que, d'une façon générale, on n'est pas là pour tuer nos pères. Malheureusement, nos pères sont ceux qui ont tenu hein, dans les années 80, 90 et 2000, malheureusement, sont trop peu nombreux. On peut penser toute une série de personnes qui interviennent là, certains qui ne sont pas là. Je pense par exemple aux marxistes du Minelli et Lévy qui ont tenu une position marxiste dans le champ de l'économie pendant longtemps alors que tout le monde rétrocédait. Bon, on n'est pas là pour tuer nos pères, hein, absolument pas ça.
Vous pourriez, hein ?
Oui, on pourrait, mais on n'est pas là pour le faire. Okay. Pourquoi ? Parce que justement, au contraire, on essaye de renouer une filiation par rapport après une période de reflux. C'est ça le fond, c'est qu'on arrive non pas à un moment donné où les pensées critiques sont extrêmement fortes, mais au moment où il y a eu malgré tout une période de reflux. Alors les lignages ensuite dans lesquels on peut s'inscrire les uns les autres, moi je parlerai de l'économie, mais je m'inscrirai dans un lignage qui à la fois est marxiste et issu de la théorie de la régulation. Hein. Je me définirais peut-être comme un enfant turbulent de la théorie de la régulation. On est plusieurs dans ce cas-là, hein. On peut penser à Bruno Hamal qui intervient régulièrement en économie politique dans Libération, on peut penser à Frédéric Lordon que vous connaissez. C'est bien France Culture. Bon, donc voilà, dans le champ de l'économie, on a une série d'enfants terribles qui retravaillons cet héritage dans l'économie d'une forme d'altustérisme et qui aujourd'hui tentons de le recharger d'une dimension critique qui s'était un peu émoussée dans les années 90.
Et donc critique radicale ? Gauche critique, gauche radicale.
Gauche critique radicale, oui. Par rapport à l'ouvrage que vous avez cité, je dirais qu'un des éléments principaux, c'est de ne pas refuser de poser la question stratégique. Pour nous, la question stratégique, elle se pose. Pour nous, la question de savoir comment on fait pour intervenir dans la situation, de quelle manière la pensée critique est en dialogue avec une situation, une conjoncture historique, est quelque chose de central. Alors que, d'un certain point de vue, les auteurs que vous citiez ont tendance à poser de manière ahistorique, il me semble, ou en tous les cas extrêmement générale, la question de la pensée critique et à se mettre à distance de ces enjeux.
C'est une articulation entre recherche et militantisme, en tous les cas, comment penser la théorie, la mettre en pratique dans la cité. Éric Fassin.
Un autre mot qui, je crois, n'a pas encore été prononcé et qui peut se profiler derrière l'émancipation, c'est celui de révolution. Il y a demain soir une table ronde, je crois, au-delà du capitalisme, où le mot de révolution est très présent. On a Éric Hazan, en particulier, qui abordera le thème de son dernier ouvrage sur des premières mesures révolutionnaires, et plusieurs autres intervenants brandissent le mot révolution. La question, c'est est-ce que la révolution fait partie du vocabulaire actuel, et pour autant qu'elle n'en fasse plus toujours partie. Est-ce que ça n'est pas aussi parce que la révolution était une sorte de programme global? Or, ce que vous nous avez décrit, c'est un programme beaucoup plus complexe, c'est-à-dire où il y a des stratégies variées et non pas l'idée qu'on sait vers quoi on va. On a beaucoup plus, me semble-t-il, des tactiques, des stratégies et peut-être moins une sorte de programme général. Donc, est-ce que le mot révolution est caché derrière émancipation ou bien est-ce qu'il est écarté?
Cédric Durand.
Ah, d'abord, le mot de révolution n'a peut-être jamais été autant à la mode que ces dernières années. C'est un fait, c'est extrêmement contemporain. On vient de vivre une vague révolutionnaire comme on n'en avait pas connue depuis plusieurs décennies. Donc, je ne pense pas que le terme de révolution soit sorti de la conjoncture historique. Ensuite, dans quelle mesure est-il adapté aux vieux pays industrialisés, aux vieilles démocraties? Là, je ferai référence à Gramsci, à sa distinction entre guerre de position et guerre de mouvement. Pour lui, la guerre de mouvement, c'est dans les situations où l'État est faible, où l'État est peu, la société civile est peu développée et peu nourrie. Et d'une certaine façon, on n'a jamais vu de révolution dans les États démocratiques. Et Gramsci anticipait ça en mettant en évidence l'idée qu'il y a plutôt une guerre de position dans les institutions démocratiques dans lesquelles le mouvement ouvrier, puisque Gramsci raisonnait exclusivement dans ce, enfin principalement dans ce terme, a pensé à développer une stratégie. Donc, la question des révolutions se pose toujours, mais en tous les cas à l'échelle globale. Mais la manière dont elle se pose ici, non, je dirais que les choses ne sont pas fermées. Parce que la tendance que l'on observe aujourd'hui, c'est une tendance au retrait de la démocratie. C'est une tendance à la dédémocratisation. Et je pense que cette crise de la démocratie, elle rouvre aussi de nouvelles questions politiques, qui ne sont peut-être pas immédiates, mais qui en tous les cas sont sous-jacentes, sont possibles.
Notamment de redéfinir des enjeux communs.
Culture, la grande table.
Le retour des communs, c'est précisément le sujet de votre chronique, Raphaël Bourgois. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Et oui, par commun, j'entends ce terme générique qui désignait d'abord de larges étendues de champs ouverts au pâturage ou à la cueillette et qu'on trouvait notamment en Angleterre jusqu'au milieu du 19e siècle. Un terme qui désignait donc un mode de gestion des espaces avant leur privatisation, un droit coutumier à leur exploitation et qui revient aujourd'hui pour penser les questions environnementales, sociales, économiques, politiques, juridiques ou encore culturelles. La notion de commun est d'ailleurs au cœur du colloque dont nous parlons avec notre invité, c'est un aspect crucial de l'émancipation. Affirmer le commun, c'est une façon d'aller contre la concentration des richesses, la captation des ressources disponibles par un nombre toujours plus réduit de propriétaires et de décideurs. Le commun, c'est aussi un moyen de partager le pouvoir d'agir et de transformer la société. Toutes ces problématiques ont émergé, ou plutôt réémergé depuis peu, parce qu'Internet a ouvert un nouveau champ de bataille politique et idéologique. C'est ce que montre l'article publié par la chercheuse Eva Emlungs-Wirten dans la revue en ligne lavidesidées.fr. Cette professeure en communication à l'université suédoise d'Uppsala y analyse les liens entre les enjeux de l'ancienne économie des communaux et notre paysage moderne d'économie de l'information. Elle retient notamment trois concepts clés qui sont les concepts de droit d'utilisateur, d'ouverture et d'enclosure. Les droits d'utilisateur et l'ouverture de l'information ont présidé, on sait, aux premières heures du développement d'Internet, mais très vite c'est l'enclosure, c'est-à-dire littéralement la mise en place de barrières comme ça a été le cas en Angleterre dès le XVIIe et le XVIIIe siècle, donc pour enclore les communaux. La question centrale, c'est comment assurer la jouissance durable des ressources facilement collectées et diffusées. On a donc d'un côté un mouvement d'ouverture qui favorise la collaboration et remet en cause notamment les notions de créateur et d'utilisateur au profit du partage. De l'autre, ce mouvement d'enclosure qu'on pourrait appeler l'extension du domaine de la propriété intellectuelle au nom, dit-on, de l'amélioration et du progrès. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on pensait s'être débarrassé de l'espace physique, celui des fameux champs communaux, et qu'on découvre un espace virtuel qui répond eh bien, aux mêmes logiques. Et la chercheuse montre comment, en dernier ressort, tout se joue autour du bien commun. Qu'est-ce qui constitue et justifie ce bien commun? Comment justifier à l'inverse une logique d'enclosure qui fait d'un usage jadis coutumier l'équivalent d'une intrusion illégale sur une propriété privée? Le mouvement en faveur de l'ouverture, les mouvements en faveur de l'ouverture se sont multipliés sur Internet avec la défense des Creative Commons ou de l'open source, les termes sont en anglais puisqu'on est sur Internet. Les communs de l'information sont aujourd'hui une revendication importante, notamment chez les scientifiques. On retrouve l'idée selon laquelle le bien commun passe par la défense des droits des utilisateurs avant la défense des propriétaires. Attention, Eva Emlungs-Wirten insiste, il ne faut pas idéaliser les communs qui restent des espaces très régulés où les tensions et l'intolérance étaient très forts, mais ils conservent leur rôle emblématique car ils ont pour effet de transformer les utilisateurs réalisateur et bien en producteur, une forme d'émancipation en quelque sorte.
Merci Raphaël Bourgois, un article à retrouver donc sur le site de lavidesidées.fr qu'on mettra nous-mêmes en lien sur le site franceculture.fr à la page de La Grande Table où vous pouvez retrouver l'émission, l'écouter, vous abonner au podcast et retrouver toutes les références bibliographiques de cette émission. Merci beaucoup d'être venu Cédric Durand. Le colloque Penser l'imagination, bon, remarque pourquoi pas, l'émancipation, c'est donc du 19 au 22 février à l'Université Paris-Ouest Nanterre, l'entrée est libre et gratuite. À la technique aujourd'hui, c'était Vincent René. On se retrouve demain.